Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Georges, je vous souhaite la bienvenue à nous le futur. Et puis, à nous le beau futur, si possible, n'est-ce pas? Alors, c'est Pierre Flynn qui chantait « Il faut marcher ». Puis je me disais, oui, c'est une belle chanson. J'ai justement vu Pierre Flynn à Saint-Camille, à l'Auberge du Petit Bonheur. J'ai beaucoup aimé son spectacle. Mais je me disais aussi, il ne faut pas marcher, c'est pas une obligation. Fait qu'on peut s'asseoir dans la forêt. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la mission de l'émission, encore une fois, puis ça va revenir quelques fois, parce que finalement, j'ai à peu près 30 livres à vous parler concernant la mission de l'émission. Et puis, on va parler de la candidate Parti vert aux États-Unis, à la présidence, de l'art écologique, de la politique de l'être et de la grande vue de la poésie. Alors, concernant la mission de l'émission, alors, c'est se donner, co-créer, contribuer à co-créer une société locale et mondiale abondante, écologique et joyeuse et pacifique. Faire ça, c'est effectuer un travail d'harmonie à mes yeux. Il y a près d'une trentaine de livres à lire et comprendre pour faire ce travail. Le premier est « Critical Path » de Buckminster Fuller, non traduit. Par contre, le manuel d'instruction du vaisseau spatial Terre a été traduit et c'est par René Pelletier, un Cherbourgois en plus. Alors, le message, c'est que nous avons le savoir et la technologie pour transformer les ressources de façon à donner une belle qualité de vie à l'humanité, écologiquement, pacifiquement, moi j'ajoute joyeusement, grâce à un plan de 10 ans. Que Buckminster Fuller avait concocté en 1980. Il nous proposait ce plan. Donc, théoriquement, en 1990, nous aurions pu être une humanité pacifique, écologique et joyeuse si son plan avait été réalisé. Et puis, justement, en m'en venant tout à l'heure, j'écoutais une chanson à cette citation. C'était en anglais. C'était quelque chose comme... We were supposed to have peace, avec une voix très triste. Nous étions censés avoir la paix. Je me disais, oui, c'est ça, on était censé l'avoir, puis on ne l'a pas eu. Autrement dit, le plan de Buckminster Fuller, c'est un échec. Cependant, il y a une distinction qu'a faite justement l'auteur de la chanson, là, que je viens d'oublier. Il a fait la distinction entre accompli et inaccompli. Alors moi, je dis que Buckminster Fuller, il a accompli la création de l'option, une nouvelle option pour l'humanité, de se donner une belle qualité de vie écologiquement et pacifiquement. Cette option-là, c'est grâce à lui que nous l'avons. Parce qu'il a fait 50 ans de recherche et d'expérimentation. C'était un but qu'il s'était donné sur un espace de 50 ans. Puis il a aussi accompli le plan, un plan de 10 ans pour y arriver. Mais ce qui est inaccompli, c'est la résolution du plan. Alors, j'ai parlé déjà ici de Raworth, une économiste qui a écrit le livre « La théorie du donut ». C'est 40 ans plus tard, là, c'est à peu près en 2020. Et elle répète en des mots différents ce que Buckminster Fuller parlait. Il disait, il parlait du succès de l'humanité écologiquement et pacifiquement. Elle parle de... une zone juste et sûre pour l'humanité que nous pourrions atteindre seulement en respectant le plafond écologique et le plancher social. Le plafond écologique, c'est 9 limites de la planète à ne pas dépasser. Malheureusement, il y en a 6 de dépasser. Ne paniquons pas, on peut pas mal reculer, j'ai l'impression, on peut revenir à quelque chose de potable. Et puis, le plancher social, c'est 12 besoins à remplir. Dans sa liste des 12 besoins, je me suis dit que je ne vois pas le vêtement. Je pense que c'est un vêtement, c'est important. Par exemple, l'hiver ici, là, ça en prend un petit peu. Et puis, nous sommes encore dans une économie permanente de guerre. Et Éloi Laurent, qui a écrit le livre « Ici, la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance », il aime Robert, dont je viens de parler. Lui aussi est économiste. Il dit que ce qu'elle dit, c'est intéressant, mais ça manque de dynamisme. Lui propose une boucle sociale-écologique. Alors, dans sa boucle sociale-écologique, nous serions dans une économie de dépenses sociales, qui est l'inverse d'une économie de guerre. Et justement, il existe les artistes pour la paix. Quelqu'un était censé venir ce matin, ça n'a pas marché. Et vous pouvez vérifier dans le site internet http://www.artiste.org. Alors, pouvons-nous nous reprendre, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, nous avons manqué la réussite de l'humanité en 1990 à peu près. C'est un échec, la réalisation du plan de Buckminster-Fuller. Mais est-ce qu'on peut se reprendre? Alors, moi, j'ai à peu près 5 références qui disent que oui. Je vous en donne quelques-unes ce matin. Alors, Jane Goodall, dans son livre « Le livre de l'espoir », elle dit que nous avons une marge de manœuvre. Et elle donne 4 raisons. Les ressources... Mon écriture, j'ai de la misère à comprendre. Mais en tout cas, les ressources illimitées de l'intellect humain. Et deuxièmement, la résilience de la nature. Troisièmement, le pouvoir de la jeunesse. Et quatrièmement, la force indomptable de l'esprit humain. Alors, deuxièmement, vous avez Noam Chomsky qui dit que la partie n'est pas terminée et que nous pouvons encore créer un monde meilleur. Il dit ça dans le livre « Pour l'optimisme contre le désespoir ». Je trouvais ça un petit peu court. Alors, j'avais un autre livre de lui qui s'appelle « Une vie de militantisme ». Et je lis à la page 125, un instant. Néanmoins, là c'est 126. Néanmoins, le fait que nos dirigeants soient heureux de nous condamner à la catastrophe pour satisfaire la soif de profit à court terme d'une minorité n'oblige personne à obtempérer poliment. Au contraire, l'évaluation réaliste des menaces et des politiques annoncées doit être complétée par des propositions concrètes, dont certaines ont déjà été mises en œuvre, afin de contenir les menaces et de bâtir une société meilleure où il fera bon vivre. Il n'est pas difficile, par exemple, d'imaginer des façons plus agréables de tuer le temps que de passer des heures dans des embouteillages en se rendant au travail. Et la liste est loin de s'arrêter là. En adoptant des mesures pour conjurer les graves menaces qui pèsent sur la survie de l'espèce humaine, une vie nettement meilleure serait à notre portée. Je pense, entre autres, au projet d'économie verte défendu par Robert Pollin, pour ne citer qu'un exemple d'analyse éclairée et prometteuse de la situation. De plus, en gardant à l'esprit le conseil de Bakounine, qui recommandait de cultiver les germes d'une société meilleure à même la société profondément déréglée de son temps, nous pouvons nous efforcer d'acquérir une compréhension des finalités et des modalités d'un changement social radical et tenter de partager celle-ci avec nos concitoyens. Et nous pouvons aller plus loin en développant dès aujourd'hui les composantes de cette société meilleure, telles les coopératives de travail, l'agriculture locale et beaucoup d'autres initiatives. Donc, finalement, cette semaine, j'ai reçu aussi, cette fois-là, c'est pas un livre, mais c'est du site Internet de Stockholm Resilience Institute. Ils disent, un peu semblablement à ce que je dis à Mme Raworth, là, dont je parlais il y a une minute, là. Ils disent que la planète pourra continuer à procurer une belle qualité de vie pour tout le monde si on élimine la pauvreté. Et nous avons... une fenêtre d'opportunité d'agir maintenant pour changer le cours des choses. Je vous donne une autre référence dont je parlerai dans une autre semaine. C'est Willis Harman. C'est un ingénieur et puis il a été président de l'Institut des sciences noétiques, l'institut qui étudie la conscience. Entre parenthèses, ça a été parti par Edgar Mitchell, un ancien astronaute, qui était en orbite autour de la Lune, puis qui était tellement toujours occupé, mais à un moment donné, il y a eu 3 secondes de liberté. Puis là, il a regardé le cosmos, puis il a vu l'étendue. Puis là, il a prouvé ce qu'il appelait la conscience globale instantanée. Global Instant Consciousness. Alors, à son retour sur Terre, il a fondé l'Institut des sciences noétiques pour l'étude de la conscience. Alors, Willis Harman, qui en a été le président, dit dans son livre « Créativité transcendante », « La paix globale est possible et rien de moins n'est tolérable. » Voilà. Donc, cette semaine, il y a eu la Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre. Et le 16 septembre, c'était la Journée internationale de la couche d'ozone. Et du 17 au 22, c'est la Journée internationale du nettoyage de la planète. Donc, je vais parler de la lutte contre la pauvreté, du nucléaire, contre le nucléaire, la recherche du climat, et puis de cultiver la paix. Alors, j'ai trouvé un document qui s'appelle « Remettre la lutte contre la pauvreté à l'ordre du jour ». Il s'agit de reparler du revenu minimum garanti ou du revenu de base. Vous pouvez trouver ça dans Internet, ça s'appelle le revenu viable et la sortie de la pauvreté. Bon instant. Fait que c'est ça, je vous suggère de regarder dans Internet, là. Remettre la lutte contre la pauvreté à l'ordre du jour par le revenu viable. Qu'il faut remettre à la discussion. Depuis 10 ans, l'IRIS, c'est l'Institut de recherche québécois, là, calcule le revenu viable afin de déterminer le seuil à partir duquel il est possible de vivre hors de la pauvreté. Bon. Malgré ces constats répétés, le gouvernement a choisi de hausser le salaire minimum à un taux plus faible que l'inflation générale. Les personnes qui touchent de faibles salaires s'en trouvent doublement appauvries, car cela ne leur permet pas de suivre l'augmentation du coût de la vie générale, ni celle réelle de leur panier de consommation. Fait que l'IRIS regarde ça. Et puis, vous avez ici un article sur l'industrie nucléaire. On dit qu'il y a un essor de la guerre nucléaire, mais qu'actuellement, on assiste à un déclin rapide, puis que l'industrie nucléaire ne réduit pas les gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on pensait. Et puis, il y a 5 raisons pour ne pas avoir foi dans le nucléaire. C'est ça, lisez l'article. 5 raisons pour ne pas avoir foi dans le nucléaire. Troisième motif, disent-ils, pour être sceptique face à la prétention de l'industrie nucléaire, réside dans le risque d'une nouvelle escalade de l'armement nucléaire. Les traités de non-prolifération des années 80 avaient permis une diminution spectaculaire du stock d'ogives nucléaires dans le monde. Elles sont passées de 110 000 en 86 à 12 000 en 2024. Mais l'industrie nucléaire, il y a un lien avec l'armement. Alors, il faudrait arrêter ça, s'il vous plaît. Donc, la rouverture de Gentilly, il faudrait faire une critique. Les gens de la gauche sont rares à s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il ne faudrait pas réouvrir Gentilly. Je suis à la recherche de documents écrits et j'attends des nouvelles et je vous en parlerai dès que j'en ai. Et puis, un genre de bonne nouvelle, c'est l'ONU qui dit ça, là. C'est l'intelligence artificielle et les satellites offrent des pistes pour relancer l'action en faveur du climat, selon l'OMM, c'est l'Organisation mondiale de la météorologie. Fait que surveillez ça dans Internet, je vous redonne le titre. L'intelligence artificielle et les satellites offrent des pistes pour relancer l'action en faveur du climat, selon l'OMM. Alors, je sais que je suis à l'université, que je m'adresse à des gens de 20 ans qui sont nés avec Internet. Fait que, quand je vous dis de regarder sur Internet, c'est facile. Fait que bonne chance à vous dans vos examens et pour l'obtention de votre premier bac. Puis en 2050, vous aurez 46 ans. Et nous aurons de la nourriture pour tout le monde, de l'énergie pour tout le monde, tu sais, selon moi. Puis à ce moment-là, vous devrez parler aux gens qui auront 20 ans à ce moment-là et pour leur dire de consolider la qualité de vie de l'humanité jusqu'en 2070 pour que tout le monde soit en paix. Et puis, le 3 septembre 2024 de l'ONU, Guterres plaide en faveur d'une coopération internationale pour exploiter le potentiel IA, c'est l'intelligence artificielle. Et dans le livre « Si la santé guidait le monde » du monsieur Laurent dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai une citation, c'est « L'État social écologique vise donc à garantir une protection aux plus vulnérables, les groupes sociaux comme les groupes territoriaux aussi, sur un principe de mutualisation des risques, tout comme l'État-providence l'a fait pour les risques sociaux traditionnels. » M. Guterres de l'ONU, il appelle à une culture de paix et à l'unité mondiale alors que les crises s'intensifient. Le 21 septembre, je vous le rappelle, c'est le jour international de la paix. Et Guterres dit que nous avons une chance de changer ça, la guerre en paix, et que le thème de la Journée internationale de la paix, c'est promouvoir une culture de la paix. Et pour ce faire, M. Guterres sonne une cloche japonaise qui est celle de la paix. Finalement, je vous parle du livre « Inventons notre avenir » de Christiana Figueres. À la page 18, je lis que « Hélas, nous sommes loin de faire ce qu'il faudrait. Que l'urgence climatique suscite en vous complaisance, tristesse ou colère, ce livre vous invite à prendre part à la création de l'avenir de l'humanité. Le défi a beau être intimidant, ensemble, nous avons tout ce qu'il faut pour le relever maintenant. » Alors, souvenez-vous de ça. Christiana Figueres, F-I-G-U-R-E-S, ça s'appelle « Inventons notre avenir » chez Albin Michel. Et puis à la page 201, faut pas rater ça, que dit-elle? Voilà. Ça s'appelle, c'est dans la conclusion, un nouveau récit collectif. Nous avons deux choses importantes à vous dire. Tout d'abord, il faut savoir que même si nous nous y prenons très tard, nous pouvons encore choisir notre avenir et donc que toutes les actions entreprises dès aujourd'hui vont compter. Ensuite, nous sommes capables de diriger notre destin et de nous engager sur la bonne voie. Nous ne sommes pas condamnés à un avenir terrible et nous ne sommes pas des êtres intrinsèquement mauvais et incapables de nous attaquer aux grands problèmes qui nous assaillent. Alors, c'est Claude Saint-Jean pour le futur, à nous le futur. Nous désirons un futur et nous allons à la pause publicitaire.
La musique, la culture, l'information.
Ça part ici.
Université de Sherbrooke.
CFAC.
88.3.
Claude Saint-Jean de retour à nous le futur. C'est pour vous parler maintenant du changement de paradigme, c'est-à-dire du paradigme cartésien-newtonien au paradigme pacifique, holistique et féministe. Si je connais ces mots, c'est grâce à Fridtjof Capra, un physicien qui a travaillé ce paradigme, ce changement de paradigme. Il le fait dans un livre qui s'appelle « Le temps du changement, science, société nouvelle et culture » que je vous suggère de lire. C'est vieux, à peu près 1980, parce que c'est le seul qui a été traduit en français, je pense. Il y a un livre très récent, là, 2022, là, que c'est « The System View ». Et puis, il donne un cours en Californie, là, sur le changement de paradigme en 12 chapitres. Puis, il a aussi écrit « Green Politics » avec Charlene Spratnak, à peu près en 1980 aussi. Je dis ça pour introduire un article que les Artistes pour la paix ont mis dans leur site Internet. Ça s'appelle « Jill Stein, le choix que les médias taisent ». Jill Stein est médecin et candidate présidentielle pour le Parti vert américain. En parenthèse, je lui ai écrit ce matin dans son site Internet. Je lui ai posé quelques questions en souhaitant qu'elle me réponde et que ça fasse l'objet d'un article, soit dans le journal Entrée libre ou le journal Regard, quelque chose comme ça. Fait que l'article dit, le titre, « Le choix que les médias taisent », Le génocide est l'impératif moral de notre époque, déclare Jill Stein, candidate du Parti vert à la présidentielle, dans un épisode de Chris Hedges Reports, alors qu'elle poursuit ses campagnes pour la présidence américaine. Rejointe par son co-listier, le professeur Butch Ware, historien spécialiste de l'Afrique de l'Ouest à l'Université de Californie, Santa Barbara, les deux expliquent pourquoi ils recherchent le vote de tous les Américains privés de leurs droits, coincés dans les malheurs de luttes domestiques et d'atrocités commises à l'étranger, en leur nom, par un empire glouton. Stein et Weir soulignent que même si le complexe militaro-industriel peut sembler un problème de politique étrangère, s'y attaquer est essentiel pour trouver des solutions nationales. Le budget convenu de la défense, qui atteint bien davantage qu'un billion de dollars, soit c'est 1 000 milliards de dollars, lorsque toutes les dépenses sont prises en compte, est l'un des principaux obstacles qu'elle souhaiterait éliminer. Et entre parenthèses, le complexe militaro-industriel, là, l'industrie militaire américaine, c'est plus de 51 % de son économie, dit l'ingénieur industriel Seymour Berman dans plusieurs de ses livres, dont « The Permanent War Economy ». Donc, car cet obstacle explique pourquoi nous ne prenons pas en charge les soins de santé, le logement, l'éducation, pourquoi nous ne désendettons pas les gens, ne traitons pas l'urgence climatique, ne mettons pas fin à l'engorgement carcéral au profit d'un système de justice réparatoire et pourquoi nous ne résolvons pas les problèmes de pauvreté et de désespoir qui sont à l'origine de la criminalité. Pensez aussi à la crise des opioïdes, dit Jill Stein, médecin, candidate présidentielle pour le Parti vert américain, dont à peu près personne ne parle. Weir, c'est son code ici, indique clairement qu'il y a un choix entre la résistance et la dissidence lors du scrutin de novembre. Nous devons mettre fin à ce cycle toxique d'abus, car il pousse les gens à penser qu'il n'y a aucun moyen de résister, alors que vous avez absolument le pouvoir de résister dès maintenant, en votant vert. Donc, j'avais demandé à M. Alex Tirel, qui est le chef du Parti vert québécois, d'intervenir auprès d'elle pour moi. Puis ça n'a pas fonctionné, donc j'ai réussi à le faire ce matin par Internet. Donc, je faisais l'année dernière une chronique sur l'art écologique, que je fais moins ces temps-ci, mais je m'inspirais de la Fondation Grand Tam, de laquelle j'ai reçu hier de l'information sur justement l'art écologique. C'est une fondation pour l'art et l'environnement. Donc, il nous explique qu'il va y avoir 4 films, 4 courts-métrages. Et je vous lis ça ici. Pour une deuxième année, la Fondation Grand Tam est heureuse de s'allier au Festival international du film sur l'art. C'est FIFA, en co-présentant 4 courts-métrages dans le cadre du FIFA près de chez vous. La projection des courts-métrages aura lieu le 28 septembre de 14 à 15 heures dans les jardins de la Fondation Grand Tam pour l'art et l'environnement. Il s'agit de fragiles monuments, de navigation, de forêt et de forward back. Ce sont les 4 courts-métrages qui seront présentés lors de cet après-midi de projection. Chacun d'eux interroge brillamment et intelligemment la question des liens que nous entretenons avec le territoire. L'entrée est libre, aucune réservation requise. L'espace est couvert. Les projections auront lieu même s'il pleut. Pour tous les détails, cliquez ici. Alors, cliquez sur Fondation Grand Tam pour l'art et l'environnement, qui nous offre 4 beaux films sur l'art écologique. Et je voudrais vous lire quelques extraits là, de... C'est l'UNESCO qui nous parle. Elle parle d'éducation qui transforme la vie. Et elle lance une alerte sur la hausse mondiale des attaques contre les lieux de l'éducation. Selon une étude de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques, dont l'UNESCO est membre, 6 000 attaques contre les élèves, les professionnels et les établissements éducatifs, dont 1 000 cas d'utilisation militaire de ces établissements ont été recensés dans le monde en 2022-2023, soit en moyenne 8 par jour. Cela représente une hausse de 20 % par rapport aux 2 années précédentes. Plus de 10 000 élèves et éducateurs en auront été les victimes. À tous les acteurs engagés dans ces conflits, la nécessité de se conformer à la résolution 2601 du Conseil de sécurité des Nations unies et invite par ailleurs tous les États à mettre en œuvre les recommandations de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez savoir c'est quoi. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Mais le titre de l'article, c'est « L'UNESCO alerte sur la hausse mondiale des attaques contre les lieux d'éducation ». C'est un communiqué de presse. Également, j'ai reçu, c'est l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui dit quelque chose de triste. C'est que 9 personnes sur 10 respirent un air impropre à la consommation. Ça, c'est dans le monde. Et l'ONU appelle à agir. Puis, en lisant l'article, on voit que l'Amérique du Nord et l'Inde sont plus touchés que l'Europe. Donc, ça veut dire que c'est nous autres, ça. Fait que 9 personnes sur 10 ne respectent pas un air propre à la consommation. J'en ai parlé au conseil municipal comme citoyen et j'ai pas eu de réponse très claire. J'ai souhaité que la qualité de l'air soit mesurée. Alors, si vous tenez un bel air, un bon air, allez-vous aussi au conseil municipal demander qu'une mesure soit faite et puis que si l'air n'est pas bon, bien qu'on prenne des mesures pour l'améliorer. Fait qu'il y a un autre article de l'ONU qui s'appelle « Gaza, il faut faire plus sur le terrain pour sauver des vies civiles », déclare une responsable de l'ONU au Conseil de sécurité. Et l'article date du 16 septembre. La coordonnatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, Singrid Kag, a informé les membres du Conseil de la mise en œuvre de la résolution 2720 qui a été adoptée en décembre dernier, qui a établi son mandat suite aux attaques sanglantes du Hamas contre Israël le 7 octobre et au début des hostilités à Gaza. Les objectifs, dit-elle, de l'aide humanitaire ne sont pas atteints. Et puis, la position de l'ONU est claire, a-t-elle poursuivi. L'autorité palestinienne doit reprendre pleinement ses responsabilités à Gaza. Le cabinet du premier ministre Mustafa a élaboré des plans complets pour rétablir la gouvernance locale, la sécurité et rétablir l'état de droit. Et deux bonnes nouvelles. Alors, ça me vient de Good News Network. Je vous en prie, abonnez-vous à ça, c'est gratuit. Et vous avez 5 bonnes nouvelles par jour. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a 1 million de mauvaises nouvelles pour une bonne. Alors, c'est normal des fois qu'on se sente triste ou en colère. Fait que la bonne nouvelle, c'est que chaque année, 300 millions de balles de tennis sont fabriquées pour le sport bien-aimé et presque tous sont jetées. Alors, il y a quelqu'un qui a développé un design de sofa fait avec des balles de tennis. Les balles de tennis sont remplies de gaz, ce qui non seulement fait le rebond, bon, tu vois. Fait que, moi, voilà. L'éco-conception, c'est la circularité. Vous pouvez utiliser de grands matériaux qui sont à faible émission de carbone ou recyclés, mais vous devez penser au cycle final, a déclaré l'inventrice de ces sofas faits avec des boules de tennis finies. T'sais. Fait qu'au lieu de les jeter, elles font des sofas avec ça. Et puis, un monsieur riche, un ancien joueur de basketball, Charles Barkley, qui a fait un don de 1 million de dollars à une académie de la Nouvelle-Orléans qui vient de produire... C'est traduit de l'anglais, c'est mal traduit, là. Deux jeunes mathématiciens révolutionnaires. Et d'ailleurs, ce sont des femmes, donc c'est deux jeunes mathématiciennes révolutionnaires qui ont résolu le problème trigonométrique de Pythagore, le théorème de Pythagore. Alors, elles ont eu 1 million de dollars de la part de Charles Barkley, dit le Good News Network. Et puis, c'est ça, une autre bonne nouvelle. C'est une troisième bonne nouvelle. C'est qu'il y a eu une étude scientifique pour voir si les vacances, c'est bon pour la santé. On dit que c'est après une durée et demie année de travail. Là, ça peut être travail intellectuel ou travail dans des usines. La pensée peut surgir que vous avez besoin de vacances. Une équipe de scientifiques a proposé que c'est en fait très vrai et que votre vie pourrait très bien en dépendre. Leur document examine comment les voyages et le tourisme affectent positivement la santé humaine par le biais du mouvement de l'organisme vers un état de faible entropie. Il y a 4 systèmes dans le corps. Là. C'est un système d'auto-organisation, un système de défense, d'auto-réparation et d'auto-anti-usure. C'est traduit de l'anglais « anti-wear », « anti-usure ». Alors, si le processus fondamental de la vie est irréversible, il peut être atténué par diverses mesures, le tourisme pouvant en faire partie. Le touriste pourrait induire des changements d'entropie, des expériences touristiques positives, telles que l'exposition à des nouveaux stimuli, l'interaction sociale et la participation à des activités physiques, peuvent aider à contrer l'entropie et à améliorer la santé. Donc ça, c'est encore dans « Good News Network ». Le titre en anglais, c'est « Your next vacation may be a lifesaver, says researcher studying travel, aging and health ». Vous savez que vous avez des systèmes qui font la traduction, là. Maintenant, je vous parle de 3 petits livres intéressants. Les 2 premiers, ça me vient d'un autre livre dont je vais vous parler plus tard. Ça s'appelle... « Voulons-nous nourrir le monde? Franchir l'Everest alimentaire en 2050. » Ça, c'est vraiment un excellent livre. Toutes les lignes sont soulignées quasiment. Les pages sont pliées, puis je vais vous parler de ça plus tard. C'est 2024 et ça fait écho à un livre de 1979, Food for Everyone, qu'un adepte de Buckminster Fuller avait écrit à ce moment-là. Alors, c'est long, n'est-ce pas, arriver à nourrir la planète entière. Mais il y a beaucoup de gaspillage qui se fait, qu'on pourrait prendre une bonne partie du gaspillage qui est bon à manger, mais c'est un peu imparfait. Comme le montre le film que j'ai vu hier, là, un excellent film, ça s'appelle « Tous toqués ». C'est bon, ça montre que justement avec les aliments imparfaits, on peut produire et tout ça. Fait que le livre, c'est « Le cerveau cuisinier, petite leçon de neurogastronomie ». C'est écrit par un ingénieur agronome qui est spécialiste en biologie moléculaire et cellulaire. Notre alimentation résulte ainsi d'un compromis entre nature et culture et c'est le cerveau qui décide. Cet ouvrage, justement illustré, brosse un tableau de nos connaissances en neurophysiologie de l'alimentation et les restitue dans leur contexte social, économique et culturel. Il est destiné aux scientifiques, étudiants, enseignants, diététiciens, gastronomes et aux curieux de l'alimentation. Je vous rappelle le titre, c'est de Roland Salès, c'est « Le cerveau cuisinier, petite leçon de neurogastronomie ». Je l'ai obtenu par prêt entre bibliothèques. Par contre, ce livre ici, il est à la bibliothèque de Sherbrooke, de la ville de Sherbrooke. C'est de Christian Remesy, R-E-M-E-S-Y, qui est nutritionniste. Le titre, c'est « La nutri-écologie, le seul futur alimentaire possible ». À Lando, je peux voir que notre manière de manger n'est pas neutre. Elle peut participer de l'aggravation du réchauffement climatique à l'érosion de la biodiversité. Dans ce livre qui ne laissera personne indifférent, Christian Remesy nous montre que la meilleure façon de bien se nourrir est aussi la plus efficace pour protéger la planète. En suivant notre chaîne alimentaire du champ à l'assiette, ce document met à jour l'immense responsabilité du système agro-industriel et dans l'épidémie mondiale d'obésité et de diabète et le gâchis de la nourriture qu'il génère, ses dégâts sur l'environnement et au passage dénonce l'inefficacité totale des recommandations nutritionnelles officielles. Christian Remesy a été directeur de recherche en nutrition humaine à INRA. D'origine paysanne, il s'est battu toute sa vie pour promouvoir une alimentation préventive et une agriculture durable. Donc, le titre est « La nutri-écologie, le seul futur alimentaire possible ». C'est super. Et puis, quelques mots sur un livre que j'ai chez moi. C'est « La ruée minière au 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition ». Fait que j'ai eu le goût de le relire, puis pour moi, c'est pas difficile. Je lis les pages pliées, puis les phrases soulignées. T'sais. Fait que j'ai à peu près 7-8 pages à vous redire, là. À la page 73, qu'est-ce que c'est ça? Bien, en fait, c'est une critique du 5G. Hein? Elle dit que des œuvres gigantesques absentes de l'imaginaire collectif, des ouvrages gigantesques. Comment une telle émission est-elle possible? En faisant disparaître l'objet le plus visible et le plus dangereux de son projet, l'entreprise Tungsten du Narbonnais a misé sur l'ignorance du public. Cela aurait pu passer inaperçu. Force est de constater que les parcs à résidus miniers sont quasiment absents de notre imaginaire collectif. La généralisation de ce modèle extractif a démultiplié le volume des matières excavées, faisant des déchets dangereux la principale production des sites miniers. Donc, elle critique le 5G. Et un petit peu plus loin... C'est le 5G, tout simplement, c'est qu'il a passé de métaux pour tout faire ça. OK. Le pouvoir du régime minier est indissociable de celui de l'État qui, depuis le 18e siècle, l'a administré au bénéfice de la bourgeoisie et justifié au moyen d'une alliance avec les élites scientifiques. L'extraction et la combustion des matières fossiles ne sont que l'un des aspects de ce régime minier et le paradoxe tragique de la décennie est que ce régime soit ressorti profondément renforcé du crime évident, universel et inégalé que constitue le dérèglement climatique. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, là. J'ai pas le temps. Fait que c'est de Célia Izoard, I-Z-O-A-R-D, et ça s'appelle « La ruée minière au 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition ». Alors, c'est pas sûr qu'il y a assez de métaux, donc il faut changer notre mode de vie. Maintenant, un petit mot à propos d'un livre que je vous ai conseillé la semaine dernière. Je disais que c'est un livre qui peut-être englobe à peu près tout ce dont parle cette émission. Ça s'appelle « Politique de l'être, sagesse et science pour construire le nouveau monde ». En rentrant à l'université, je voyais des pancartes de gens qui disaient « Nous ne sommes pas sages ». Ce sont des gens qui... T'sais, d'habitude, les gens sages ne sont pas nécessairement anti-pétrole. Fait que les jeunes sont contre les sages qu'on connaît d'habitude. Fait que, par contre, « La politique de l'être, sagesse et science pour construire le monde » et préface de Mathieu Ricard, ça a de l'allure. Sauf que... J'ai oublié de dire que ça ne parle pas d'énergie et c'est regrettable. L'énergie, c'est beaucoup, là. C'est l'équivalent à cause d'Einstein, E égale MC puissance 2. C'est toute la matière qui, en fait, est de l'énergie. Et puis, Buckminster Fuller, dont je vous parlais, il dit que nous ne sommes pas dans une société de rareté. C'est plutôt notre ignorance parce que nous avons tellement d'énergie disponible, ça nous sort par les oreilles. En effet, nous ne transformons que 1/4 millionième de 1% de l'énergie qui est disponible et nous en gaspillons 95%. Ça me rappelle un physicien aussi, Amory Lovins, qui a fait un institut d'études sur l'efficacité énergétique, que j'ai déjà interviewé ici à Montréal lors d'une manif sur l'efficacité énergétique. Lovins disait que l'attitude que nous avons envers l'énergie, c'est de couper une livre de beurre avec une scie à chaîne, tu sais. Fait que là, un petit mot de Roméo Bouchard qui, dans sa page Facebook, parle de « Le retour d'Esdras Mainville ». C'est une invitation spéciale aux Gaspésiens. Samedi prochain, le 21 septembre, à l'espace Esdras Mainville, à Grande-Vallée. Vous connaissez ça, Grande-Vallée, j'espère? C'est tellement de belles montagnes là, puis il y a des caribous en haut. À partir de 13h, aura lieu un événement à l'honneur de Esdras Mainville organisé par la Société nationale de Gaspésie et la municipalité de Grande-Vallée. À l'heure où nos régions et nos territoires étouffent sous la centralisation de l'État-providence et de l'économie mondiale, on veut célébrer, dit Romain Bouchard, l'engagement indéfectible de Esdras Mainville en faveur de l'exploitation coopérative de la forêt par les communautés régionales et, de façon plus large encore, d'un développement économique décentralisé basé sur l'exploitation de nos richesses naturelles par les communautés régionales elles-mêmes. Donc, plusieurs intervenants régionaux y seront. Et Bouchard dit qu'il prendra une conférence. C'est le retour d'Estras pour une prise en charge de nos ressources naturelles par les communautés régionales. Ça parle de la Gaspésie, mais pourquoi pas l'Estrie? Fait que c'est tiré du livre de Roméo Bouchard qui s'appelle « La reconquête du Québec, Esdras Mainville et le modèle gaspésien ». J'ai ce livre-là, je vous le suggère. Et puis André Larocque a écrit « Au pouvoir citoyen pour critiquer l'usurpation des partis politiques ». André Larocque et Roméo Bouchard font la promotion de l'écriture citoyenne de la Constitution. Et je vois dans le thème 8 que nous pourrions écrire, eux autres donnent un exemple. La démocratie de l'information, c'est le thème 8. Dans l'optique d'une restauration de la démocratie, l'information et l'éducation à la vie démocratique deviennent une priorité, surtout dans l'univers de communication qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, l'article 18, il y a 5 points, là. Assurer la présence dynamique des médias publics d'information entièrement financés par l'État et sans publicité. Doté d'une véritable indépendance, le Québec doit envisager de faire de Télé-Québec un réseau national de télévision et de radio publique. Deuxièmement, les médias d'information indépendants, privés ou communautaires doivent recevoir un soutien financier de l'État. Troisièmement, un droit de parole de citoyens. Tous les médias publics, communautaires et privés doivent être obligés de faire une place significative à l'expression des citoyens, de leurs opinions et de leurs projets. Et il est nécessaire aussi de bâtir un réseau d'information, d'éducation et de soutien à la vie démocratique. La démocratie ne s'improvise pas et nécessite une volonté collective éclairée si l'on veut contrer la propagande et la dictature médiatique du pouvoir financier. Et en dernier lieu, tous les documents des instances publiques doivent être facilement accessibles à tout citoyen en raison d'un principe de transparence totale. Et j'ai aussi imprimé quelque part une opinion de M. Bouchard qui disait « La réforme démocratique est vue ici comme la clé de tous les autres changements en ce sens qu'elle permettrait au peuple, s'il le désire, de redéfinir ses institutions démocratiques et ainsi reprendre le contrôle des décisions collectives, notamment ce qui a trait à la décentralisation politique et économique, l'utilisation de nos ressources naturelles, l'environnement et le climat, les relations avec les Premières Nations, l'égalité et la solidarité de tous les citoyens, l'autonomie du Québec, etc. » Voilà. Et également, dans cette section de cette émission, je vous parle d'un article de l'ONU qui dit que l'Assemblée générale adopte une écrasante majorité, par une écrasante majorité, une résolution exigeant la fin de l'occupation de Palestine par Israël. C'est le 18 septembre que ça a été décidé. Et puis, des Premières Nations du Québec, je reçois un courriel disant que la journée de la réconciliation, c'est le 21 septembre 2024 à La Conception. Alors, vous êtes tous invités, tous et toutes. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir? Par exemple, de 13h à 15h, il va y avoir des ateliers découvertes pour toute la famille et conférences. Les ateliers découvertes, c'est la fabrication de bannique et tisane de cèdre par un passeur de culture. La fabrication de bâtons de parole et cercles de parole par un passeur de culture. La sauge et le feu sacré avec les gardiens de feu. Des chants et tambours, danses, gisances autochtones. Puis, dans les conférences, il va y avoir conférence sur la culture autochtone par un aîné Innu. La conférence sur le chemin de vie des deux autochtones Anisinapé, ça c'est algonquin, et puis la roue de médecine et cercle de parole par un aîné Innu. Une aînée Innu et conférence sur la vie nomade. Donc, je répète que la journée de la réconciliation, c'est le 21 septembre 2024. Alors, quelques petits mots pour vous dire que le constructivisme, ça consiste à ignorer ce que l'on considère comme ayant toujours été là pour se donner ce que l'on veut voir et entendre. N'est-ce pas que la paix, c'est à peu près ça? Pourquoi ne pas créer au lieu de connaître? Pourquoi ne pas se donner ce que l'on veut voir au lieu d'attendre de façon passive que les choses se donnent à nous? Alors, dans le futur en question dont on parle, c'est à peu près ça, c'est du constructivisme. Là, je vous donne quelques citations de Edgar Morin tirées de son livre « Graines de sagacité », page 23. « L'expérience d'autrui ne sert à rien. » OK. Page 41. « J'ai confiance dans le génie souterrain qui travaille dans les tréfonds mentaux, qui réveille et révolutionne les esprits là où on pouvait croire que tout était fermé, figé, congelé. » Page 108. « Le pire de l'aveuglement, c'est d'être aveugle à sa propre cécité. » Et en fouillant dans mes boîtes, j'ai trouvé un vieux document de l'ONU. Là. C'était « The Disarmament Week ». C'était le 24 octobre. Ça n'existe plus, la semaine du désarmement. Par contre, il existe le 21 septembre, jour de la paix, et le mois de novembre, le mois de la culture de la paix. J'ai aussi trouvé un document qui date de 2007, puis qui est un peu... C'est comme si c'était 2024, là, parce que ça n'a pas été appliqué. Ça s'appelle « Carbon Free and Nuclear Free, a Roadmap for U.S. Energy Policy ». C'est Arjun Makijani. Donc, je vous répète, le titre, c'est « Carbon Free and Nuclear Free, a Roadmap for U.S. Energy Policy ». Sachant que tout peut être traduit, n'est-ce pas, par votre ordinateur, vous pouvez le voir en français. C'est de l'Institute for Energy and Environmental Research. Fait que ça fait depuis 2007 là, que nous avons la connaissance, aux États-Unis du moins, pour faire une société sans pétrole et sans nucléaire. Alors, pourquoi n'en profitons-nous pas? Et puis, dans un livre de Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, qui est devenu la Russie, tout simplement, puis un paquet de petits pays défaits, là. Khrushchev, tu sais, je lis ça, là. Gorbatchev se demandait comment qu'on dépense pour le militaire. Il ne savait pas. Et puis, ça a pris beaucoup de recherches pour se rendre compte que 40 % du budget de l'Union soviétique allait dans le militaire. Alors, le prochain document que je vois en face de moi, c'est, le titre, c'est « Interdire les armes nucléaires ». C'est disjoncté, qui est le site Internet d'où ça vient, D-I-J-O-N-C-T-E-R. Le titre, c'est « Interdire les armes nucléaires ». C'est le 19 avril 2024 que ça a été publié. Et puis, ça me rappelle de vous dire que j'ai demandé au conseil municipal, avec l'appui des artistes pour la paix, que la ville de Sherbrooke appuie le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et j'ai pas encore eu de réponse. J'espère que ça va se faire. Et puis moi, bien, je viens de l'Abitibi, puis il y avait des bombes nucléaires à Val-d'Or, cachées dans le sous-sol, dans mon enfance, et moi, je savais ça, malgré que c'était un secret. Et puis, j'ai un article ici qui le démontre. Ça s'appelle « Des missiles nucléaires entreposés à l'aéroport de Val-d'Or durant la guerre froide ». C'est de Radio-Canada qui dit ça. Et puis, j'ai un autre article très intéressant, c'est « Débarrasser le Canada du nucléaire, 9 raisons pour faire ça ». C'est de www.ccnr.org. Bon, on dit que l'énergie nucléaire est dépassée, qu'elle est dangereuse, qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle ne peut stopper l'effet de serre, qu'elle est malpropre, qu'elle n'est pas sûre, qu'elle coûte cher, qu'elle ne crée pas beaucoup d'emplois, qu'elle est reliée aux armes nucléaires. Alors, si vous avez le goût de vous informer, lisez ça, c'est « Débarrassons le Canada du nucléaire, 2.9 raisons ». Et puis, il existe aussi le regroupement pour la surveillance du nucléaire, là, dirigé par le professeur de mathématiques Gordon Edwards, qui critique dans le passé là, le réacteur nucléaire expérimental de Gentilly 1. Mais M. Fitzgibbon, qui n'est plus là, mais qui est quand même influent, parle de réouvrir le Gentilly. Je pense que ça va prendre du temps, ça va nous donner le temps d'y réfléchir puis de contester, là. Fait que, à ne pas faire, mais lisez le regroupement pour la surveillance nucléaire, demandez des articles, pourquoi être contre la réouverture de l'agence de l'usine Gentilly. Et puis finalement, il reste 4 minutes avant que la limite qui m'est accordée soit atteinte. Encore M. Guterres, le 18 septembre, disait dans le bulletin de l'ONU, et je vous suggère de vous abonner à ça, le bulletin de l'ONU, c'est le sommet de l'avenir, 2 points. Le chef de l'ONU voit des avancées potentielles sur plusieurs sujets importants, parce que le sommet de l'avenir, ça s'en vient. Il fait un appel aux États membres pour un esprit de compromis, montrer au monde ce dont nous sommes capables lorsque nous travaillons ensemble, dit le chef de l'ONU. Nous avons des défis internationaux qui évoluent plus vite que notre capacité à les résoudre. On ne peut pas suivre le rythme. Les crises interagissent et se nourrissent les unes aux autres. Le défi du 20e siècle nécessite des mécanismes de résolution de problèmes plus efficaces et un réseau inclusif. Selon M. Guterres, le changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais il peut commencer aujourd'hui. Donc, il a souhaité que les États membres fassent tout leur possible pour que le pacte de l'avenir, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures franchissent la ligne d'arrivée lors de ce sommet sur l'avenir. Bonne chance à tout ça. Et un petit mot sur la grande nuit de la poésie. Alors, Michel X. Côté, qui était à parler de... qu'il aidait Richard Desjardins à faire une chanson par fax, parce que Desjardins allait dans plusieurs hôtels. Et puis, le 17-08, c'était la grande nuit de la poésie. Il y a à peu près 150 poètes. Et il y a un beau livre ici de David Goudreau, « Les lettres attachées ». Puis il y a un article dans la presse que Goudreau a écrit, c'est « Poétique justice ». Je vous invite à aller voir ça. Et puis... donc, voici quelques extraits que j'ai fait à cette rencontre-là. Un, deux, trois. Yeah, ça y est.
Le thème du territoire. Alors, j'ai appelé ça « Occuper le territoire ». Le territoire du rêve. Caché dans le point infinitésimal du possible. Avant l'orgasme du grand boom qui lui donnera naissance, l'univers n'était qu'un rêve.
C'était Raoul Duguay. Ensuite. Ça, c'est pour vous montrer que les gens étaient contents.
Tout plein d'autres dossiers à gérer, et pourtant, il a choisi la poésie, il a choisi la route, il a choisi de venir jusqu'à nous. C'est un poète qui semble être là depuis toujours, qu'on pourrait considérer encore dans la relève, et pourtant déjà un monument, M. Jean-Christophe Réel.
Bon, c'était David Goudreau qui faisait une présentation. Revoici Raoul Duguay.
J'écris pour devenir partie intégrante de la foultitude. J'écris pour apprendre à me comprendre, pour apprendre à comprendre le monde dans lequel je vis et y prendre ma part entière. J'écris pour jeter un pont entre rêve et réalité, car qui n'a plus de rêve n'a plus d'avenir. Des babines. Et je m'amusais à prendre les mots et à les virer à l'endroit, à l'envers, à fabriquer des mots. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans le dictionnaire. Et quand j'étais jeune, c'est ça que je faisais. Je lisais, je m'étais donné comme consigne de lire au moins 10 pages du dictionnaire Larousse.
OK, alors ça, c'était un poète que je trouvais drôle. Et puis, je l'ai enregistré parce que vous connaissez les chansons à répondre. Alors lui, c'est le seul qui faisait des poèmes à répondre. C'est tout. Merci beaucoup. Ici Claude Saint-Jean pour Nul Futur. Portez-vous bien. À bientôt.